journal, c'est vous Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Tous au chevet de Notre-Dame, 24 heures après l'incendie qui a détruit une partie de la toiture, l'émotion reste forte, notamment sur le parvis de la cathédrale qui n'a pas désempli de la journée. De partout, les promesses de dons affluent, notamment des grands groupes industriels. Plus de 700 millions sont déjà annoncés. L'accident reste ce soir la thèse privilégiée pour expliquer cet incendie. Les œuvres d'art, pour l'essentiel, ont été mises à l'abri, mais toute la toiture notamment est à refaire. On y revient bien sûr, Fabienne, dans le téléphone sonne.
Mais oui, comment on reconstruit un bâtiment d'huissier avec qui la charpente une partie de la voûte? Est-ce qu'on perd un bout de l'histoire de ce monument quand il n'est plus entièrement d'époque? Combien de temps tout cela va mettre pour tout remettre en état? 01 45 24 7000.
Emmanuel Macron s'exprimera sur le sujet ce soir à 20h. Ce qu'il devait annoncer hier en conclusion du grand débat a fuité mais n'a pas été confirmé. Il y reviendra en temps voulu, dit-on, à l'Élysée. Dans ce journal également un mot sur l'affaire Redouane Faïd, le pilote de l'hélicoptère avec lequel le braqueur s'était évadé, a été placé en garde à vue avec sa belle-fille. Un mot également de l'Algérie où le président du Conseil constitutionnel a démissionné. Ce qui ne change rien pour les Algériens invités à s'inscrire sur les listes électorales aujourd'hui et qui continuent d'appeler au boycott de la présidentielle. Enfin la météo. Un temps bien ensoleillé pour demain, la douceur se met en place, nous dira Sébastien Léas.
France Inter.
Que Notre-Dame ait retrouvé sa splendeur pour les JO de Paris en 2024. La maire de Paris, Anne Hidalgo, se veut optimiste. 24 heures après l'incendie de la cathédrale, on mesure à peu près maintenant l'ampleur des dégâts, l'ensemble de la charpente détruite, une partie de la voûte effondrée, et bien sûr la flèche que tout le monde a vu tomber en direct. Les œuvres d'art, en revanche, ont été sauvées, tout comme les rosaces des 12e et 13e siècles, et le grand orgue sauvé, mais en danger. Tout cela devrait être en partie démonté, nettoyé, restauré. On va y revenir au lendemain de l'incendie spectaculaire. L'heure était encore à l'émotion. Parmi les badauds extrêmement nombreux venus voir Notre-Dame et s'assurer peut-être qu'elle est bien encore debout, Delphine Evenou, vous avez passé la journée sur le parvis, plus encombré encore peut-être que d'habitude.
Oui, les abords du parvis, les quais de Seine, les ponts, tous les axes qui permettent de constater la blessure de Notre-Dame sont saturés. À côté des bouquinistes, un chant résonne. De jeunes catholiques se recueillent, certains pleurent. Un peu plus loin, Benoît, il est seul, il a marché une heure pour voir de ses propres yeux cette cathédrale qu'il aime tant.
Et là, vous voyez, les gargouilles, on a l'impression qu'elles regardent le désastre. J'ai vécu tellement de choses à l'intérieur que c'est comme si c'était ma maison qui avait brûlé.
Comme lui, ils sont des centaines, massés, les yeux levés, abasourdis. Signe de ce moment d'émotion collective, ces discussions qui se nouent entre inconnus, comme entre Antoinette et Sophie.
Je suis en deuil. J'aime tellement Paris.
Je suis très triste, mais elle est encore debout et je pense qu'on construira.
Oui, ouais. Oui, on peut encore, heureusement.
Et dans les larmes ou les gorges nouées, il y a quand même de l'optimisme en effet. Notre-Dame défigurée tient debout malgré tout.
Alors la suite des événements, Delphine, dans les heures, les jours qui viennent, quelles sont les urgences? D'abord, j'imagine, des mesures de sécurisation des lieux.
Oui, le premier impératif, c'est bien de vérifier la solidité des voûtes. Le feu d'abord, puis l'eau qui a saturé les poutres ont fragilisé la structure. Les camions de pompiers sont toujours très nombreux autour du bâtiment. On les a vus au cours de la journée, ces pompiers grimper sur les beffrois, inspecter l'échafaudage depuis une nacelle. Un drone a également survolé Notre-Dame. Tout cela va prendre encore du temps. Alors quand la cathédrale sera-t-elle réouverte au public, au culte? Vite, espèrent les autorités, mais aucune date n'est pour l'instant avancée. Et puis il y a la reconstruction à proprement parler, l'échafaudage actuel est déjà une toile d'araignée. Alors imaginez ce qu'il faudra pour refaire la charpente. Quant au délai pour que Notre-Dame retrouve sa splendeur, il faudra entre 10 et 15 ans selon la Fédération du bâtiment spécialisé dans les monuments historiques.
Delphine Evenou à Notre-Dame avec Éric Gérard. Dès hier soir, le chef de l'État qui s'était rendu à Notre-Dame a promis de rebâtir la cathédrale en lançant une grande souscription nationale que n'ont pas attendu de très nombreux mécènes pour se manifester. Plusieurs centaines de millions de dons déjà annoncés par la famille Arnault, la famille Pinault, le groupe L'Oréal, la famille Bettencourt, la famille Bouygues, le groupe Total et beaucoup d'autres. A priori, ce ne sont pas les moyens qui manqueront. Notre-Dame étant après la basilique Saint-Pierre de Rome, le monument le plus connu de la chrétienté, c'est du monde entier que les dons vont affluer, en particulier des États-Unis où l'imaginaire autour de Notre-Dame est très fort, comme l'explique Philippe de Cuverville, le directeur général des affaires économiques du diocèse de Paris. Il est au micro de Louise Baudet.
On a été sollicité par des Américains qui souhaitaient pouvoir participer à ces travaux d'entretien qui étaient programmés. Donc, il y avait tout un programme de travaux qui était en cours au moment de cet incendie. On a eu, lors d'une présentation aux États-Unis, un donateur qui, lui tout seul, nous a donné $1 million. Qui restait un donateur anonyme, et on ne sait toujours pas qui c'est d'ailleurs, il nous l'a versé via sa banque privée. Donc oui, il y a cet attrait de la part des Américains. Notre-Dame de Paris est connue à travers les visites que peuvent faire les Américains qui viennent en France, c'est connu à travers les spectacles de Walt Disney, à travers les spectacles de Broadway sur Notre-Dame de Paris, ce qui fait que beaucoup d'Américains ont été à un moment ou à un autre en contact avec Notre-Dame de Paris, ou en tout cas avec ce nom, avec Quasimodo, etc., toute la sorte de mythologie qui entoure cette histoire, et donc l'intérêt est très fort. Depuis hier soir, je reçois énormément de messages d'amis américains qui me disent qu'ils veulent nous aider, qu'ils veulent nous soutenir, qu'ils veulent nous accompagner. Donc il y a un attrait très fort de la part des Américains pour Notre-Dame.
Voilà un engouement auquel tous ceux qui le veulent pourront participer. De nombreux sites sont déjà disponibles pour apporter son obole, aussi modeste soit-elle. Mais gare aux arnaques, ne se fiez bien sûr qu'aux sites dûment certifiés ou attendre la souscription nationale que doit lancer le gouvernement. On pourra aussi donner au Notre-Dame Ton, qui est déjà programmé par France 2 samedi soir, un grand concert animé par Stéphane Berne au profit de la reconstruction. Quoi qu'il en soit, Paris à terre, ça n'existe pas. La France à terre, ça n'existe pas. Alors Notre-Dame de Paris, oui, sera rebâtie. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur de retour de Mayotte, l'a confirmé cet après-midi. Christophe Castaner qui s'est rendu à son tour sur le parvis. En attendant la reconstruction, on l'a dit, beaucoup d'œuvres d'art ont été sauvées in extremis, sans compter les statues des apôtres et des évangélistes qui avaient déjà été enlevées pour restauration. Le coq de la Flèche, en revanche, a disparu, et avec lui les reliques de Sainte-Geneviève et de Saint-Denis qu'il contenait. Mais tout le reste, les tableaux, le mobilier et surtout le trésor de Notre-Dame a pu être mis à l'abri à l'hôtel de ville dans un premier temps, Isabelle Pasquier.
C'est incroyable, mais d'après les responsables des monuments historiques d'Île-de-France, tout le trésor de Notre-Dame de Paris a été sauvé. La Sainte Couronne, la couronne d'épines portée par le Christ et son reliquaire, un clou et un morceau de la croix, les reliquaires de Saint-Louis, sa tunique et son fouet. Très vite, les pompiers ont réussi à évacuer ces objets du trésor de Notre-Dame en passant par la sacristie qui était moins atteinte par les flammes. Aucun tableau n'a été endommagé. Le trésor a été transporté dans un coffre à la mairie de Paris. Ce matin, on a pu voir des tableaux, des candélabres, des prie-dieu, des croix, une cuve baptismale qui ont été entreposées à la salle Saint-Jean de l'hôtel de ville. Et pour Christophe Girard, l'adjoint à la culture, ce sauvetage tient du miracle.
Vu l'ampleur de l'incendie, c'est un miracle qu'un seul objet soit sorti. C'est-à-dire que tout ça, en une demi-heure, aurait pu disparaître. Et ce miracle, il faut le saluer.
On pourrait imaginer que ce trésor, tout le monde pourra le voir bientôt, peut-être au Louvre.
On va organiser avec Paris Musée, dans la crypte Notre-Dame, une série de conférences avec un certain nombre d'objets de maquettes que nous avons sur Notre-Dame dans les semaines qui viennent.
Le trésor de Notre-Dame et tous ses objets précieux ont été transportés cet après-midi dans les réserves du Louvre. Les vitraux et l'orgue aussi ont été en grande partie épargnés. Chance inespérée pour les uns, miracle pour les autres.
Du côté de l'enquête, trop tôt bien sûr pour afficher des certitudes, mais c'est bien la piste de l'accident qui reste ce soir privilégiée, Notre-Dame étant en plein travaux de rénovation. On peut noter d'ailleurs que les échafaudages, pourtant au cœur des flammes, ont parfaitement bien tenu. Et selon le patron de la principale entreprise chargée des travaux, toutes les procédures de sécurité ont été respectées. Aucun de ses salariés n'était présent sur place quand l'incendie s'est déclaré, a-t-il dit Emmanuel Leclerc. Le procureur de Paris l'a dit tout à l'heure encore, hein, l'enquête sera, quoi qu'il en soit, longue et compliquée.
Oui, et les premiers actes d'enquête ont eu lieu d'abord la nuit dernière autour du périmètre de l'incendie. Les premiers témoins, des experts, ont récupéré les vidéos. La police scientifique a effectué les premiers repérages avant de pouvoir démarrer le travail de prélèvement et de constatation. L'objectif étant de remonter le parcours du feu à sa source, où a eu lieu réellement la première étincelle. Un court-circuit sur le réseau électrique ou un mégot de cigarette qui aurait atterri au mauvais endroit près de la toiture de l'édifice. Là où un immense échafaudage était en cours d'installation. Tous les salariés qui se trouvaient sur le site hier auront été entendus aujourd'hui ici au siège de la police judiciaire parisienne. 12 d'entre eux, 11 ouvriers et un contremaître sont ressortis un peu après 16h30. Pas de commentaire au micro, mais l'un d'eux a juste lâché qu'il n'y a pas eu de soudure hier sur l'échafaudage. Le patron de l'entreprise, vous l'avez dit, chargé des structures métalliques, a déclaré que ses employés avaient respecté toutes les règles de sécurité. De source proches du dossier. On confirme qu'effectivement, aucune audition n'a pour l'instant permis de déterminer l'origine précise de cette catastrophe. Il faudra attendre maintenant le temps des experts, de la police technique et scientifique, et puis les experts qui seront désignés par les magistrats en charge du dossier, notamment pour analyser tout le système électrique de la cathédrale.
Emmanuel Leclerc, tout a été fait donc dans les règles selon les entreprises, des règles qui sont en théorie très strictes sur ce type de chantier concernant un monument historique ou classé, où tout est fait normalement pour éviter l'accident. Démonstration à Strasbourg, où Notre-Dame de Strasbourg est elle aussi en restauration des travaux portant sur les façades du transept sud, où les services de l'État ont organisé ce matin une visite de contrôle qu'a suivi Xavier Demagny.
Hier soir, en voyant les images de Paris, Romuald Schnell a eu quelques sueurs froides. Et pour cause, il est en charge au quotidien de la sécurité à la cathédrale de Strasbourg.
Et effectivement, je me suis remémoré, la checklist des contrôles qui sont en cours. Hein. J'ai pris un papier, puis je me suis noté, j'ai dit tiens, il faut que je pense à ça. C'était aussi pour moi l'occasion de me rassurer.
Dans son histoire, l'édifice alsacien a connu plusieurs incendies. Pour s'en protéger, des murs coupe-feu ont été érigés au-dessus de la nef. Les tableaux électriques placés en extérieur. Les détecteurs de fumée installés en nombre.
Vous voyez ici les têtes de détection, elles sont quand même très très rapprochées.
Mais parfois ça ne suffit pas, Carole Pezzoli est conservatrice des monuments historiques.
Sans préjuger des causes ou responsabilités de ce qui a pu advenir à Notre-Dame de Paris, le risque existe. C'est l'accident.
Pour aider à reconstruire Notre-Dame de Paris, la Fondation de l'œuvre Notre-Dame a dès ce matin proposé l'aide de ses experts conservateurs, forgerons, tailleurs de pierre. Elle s'occupe de l'entretien et de la rénovation à Strasbourg. Depuis près de 800 ans, son directeur Eric Fischer.
Il y a l'état des lieux à faire, des études, de la maîtrise d'œuvre, avant de voir quelle est la nature des travaux à engager. Et puis à ce moment-là, effectivement, une intervention de la Fondation est complètement envisageable.
Avant de penser aux travaux, pour le symbole et par solidarité, les cloches de la cathédrale alsacienne ont sonné quelques minutes ce midi. Strasbourg, Xavier Demagny, France Inter.
Un reportage à retrouver en photo sur le site franceinter.fr. Au chapitre politique, la conséquence la plus immédiate de cet incendie, c'est bien sûr l'annulation de l'allocution présidentielle prévue hier à 20h et le report sine die de la conférence de presse annoncée pour demain. Le chef de l'État qui devait apporter ses conclusions au grand débat s'exprimera en temps voulu, dit-on ce soir à l'Élysée. Conclusion dont l'essentiel a fuité, l'intervention d'Emmanuel Macron ayant été enregistrée. On sait qu'il voulait annoncer, entre autres, une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classe moyenne, la suppression de certaines niches fiscales, une baisse de la dépense publique, également la réindexation des retraites inférieures à 2000 euros sur l'inflation, un moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux, la possibilité d'organiser des RIC sur des sujets locaux, les référendums d'initiative citoyenne ou bien encore la suppression de l'ENA, toute mesure que l'Élysée ne veut ni confirmer ni commenter. Le président de la République et le gouvernement se voulant entièrement concentrés sur Notre-Dame, Yael Goz.
Oui, un avant et un après Notre-Dame, un priorité à la cathédrale, rien d'autre. Ce serait même le seul sujet au menu du Conseil des ministres demain. Problème, le texte de cette allocution avortée, a circulé dans les rédactions et plus qu'une simple pensée présidentielle, on y trouve ce qu'il aurait alors annoncé, verbalisé. Un grand débat qui n'est pas un point final, écrit-il, mais un point de départ pour l'avenir du pays. Et sans entrer ni dans les détails ni dans les chiffrages, il confirme une réforme fiscale pour les classes moyennes, mais pas touche à l'ISF qui reste supprimé avec évaluation début 2020. Pouvoir d'achat suite, prime mobilité pour les salariés qui rouleront propre, un État garant des impayés de pensions alimentaires pour les mères isolées, lutte contre les injustices fiscales et sociales, et puis côté institution, vous le disiez, plus de réformes. Référendum, moins d'élus au Parlement, mais plus de proportionnels. C'est là la limite de l'exercice. On a besoin de détails, de chiffrages, de mise en cohérence budgétaire. Mais l'Élysée, pour l'instant, n'a qu'une seule priorité, la cathédrale, comme une métaphore de cette nation qu'il veut rebâtir.
Et ce soir, c'est de la cathédrale qu'il parlera uniquement. En attendant, tous les partis ont peu ou prou décrété la trêve politique en suspendant meetings et déplacements le temps du recueillement pour au moins 24 heures jusqu'à ce soir, donc par conséquent. Allez, on a entendu tout à l'heure l'émotion des Parisiens ou des touristes qui visitent Paris. On imagine évidemment celle des pèlerins de Lourdes. Pour terminer sur ce chapitre, des pèlerins qui eux aussi veulent être optimistes, n'hésitant pas à parler pour certains de miracles. Stéphanie Glésis.
L'incendie de Notre-Dame de Paris est évidemment sur toutes les lèvres aujourd'hui à Lourdes, mais aussi dans les cœurs des pèlerins qui quasiment tous ont visité cette cathédrale. C'est le cas de Mona qui vient de La Réunion.
« évacuée, tout est parti en fumée, mais le cœur reste là, Notre-Dame, le bâtiment qui est resté. Moi, je trouve que c'est un miracle parce que, franchement, je ne m'y attendais pas à ce que la croix soit toujours aussi brillante, en fait, dans toute l'obscurité qu'il y avait.
La tristesse est le sentiment qui domine ici, mais certains y voient aussi un signe, comme Christelle, originaire du Liban.
Ce qui est bien, c'est qu'on a encore le squelette du bâtiment, mais il faut voir s'ils vont pouvoir tout rénover quand même. C'est une histoire de 850 ans, donc... Parce qu'hier, en fait, j'étais en train de parler comment la France avait perdu un peu sa foi. Et quand ça s'est passé, j'ai senti que c'était en fait plutôt une perte de foi, plus qu'une perte d'église.
Alicia, qui vit aux États-Unis, est originaire de la Jamaïque, elle garde espoir.
Il y a toujours les positives, il y a toujours le futur qu'on peut reconstruire et j'attends avec impatience la reconstruction de Notre-Dame.
Tout ici se termine souvent par des chants à la louange de Marie et de Notre-Dame de Paris, en particulier aujourd'hui. Lourdes, Stéphanie Iglesias, France Inter.
Et il est 19h16 sur France Inter. La suite du journal, Yves, c'est du nouveau dans l'affaire Redouane Faïd.
Eh oui, il s'était évadé par hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne. C'était en juillet 2018. Un commando armé avait pris un pilote d'hélicoptère en otage pour faire évader le braqueur récidiviste, condamné à 25 ans de prison. C'est du moins le scénario tel qu'il avait été présenté. Le pilote avait été retrouvé en état de choc. Eh bien, il a été placé en garde à vue aujourd'hui, en même temps que sa belle-fille et un membre de leur entourage, Sophie Parmentier.
Oui, et c'est une garde à vue qui a été ordonnée par les juges d'instruction après 9 mois d'enquête, car les services de police judiciaire chargés de cette enquête se posent beaucoup de questions sur les liens qui ont pu exister entre Redouane Faïd et la belle-fille du pilote d'hélicoptère. Les policiers se sont en effet aperçus que le braqueur multirécidiviste et roi de la belle avait entretenu une relation épistolaire de 2 à 3 ans jusqu'en 2016 avec la jeune femme âgée d'une trentaine d'années. Cette jeune femme est en fait la fille de la compagne du pilote d'hélicoptère et tous les trois sont ce soir en garde à vue, interrogés sur leur éventuelle complicité en bande organisée dans la spectaculaire évasion de Redouane Faïd en juillet dernier. Dans ses premières déclarations devant les enquêteurs, le pilote avait expliqué qu'il avait été pris en otage par 2 hommes qui s'étaient fait passer, selon lui, pour un père et son fils qui prétendaient vouloir effectuer un baptême de l'air avant de l'obliger à voler juste au-dessus de la cour d'honneur de la prison de Réau. Alors cette version est-elle la bonne? Ou le pilote a-t-il été complice de l'incroyable évasion? Ou est-ce seulement sa belle-fille? Leur garde à vue peut durer encore 3 jours.
Dans l'affaire Mera, sans surprise, l'accusation requiert la réclusion à perpétuité pour le grand frère Abdelkader, jugé en appel à Paris. Pour l'avocat général, il y avait bien communauté d'esprit, de projet et d'action entre Abdelkader et l'auteur des 7 assassinats commis à Toulouse et Montauban en mars 2012. Le nom de Mera doit être associé à une sanction ferme, dit-il, car il est brandi aujourd'hui encore comme une fierté par des candidats au djihad. Le verdict est attendu jeudi. Et puis 6 ans après le scandale de la viande de cheval vendue pour du bœuf dans des plats cuisinés, 2 dirigeants de la société de transformation Spanghero et 2 négociants néerlandais sont condamnés pour tromperie. 2 ans, dont 18 mois avec sursis, c'est la peine la plus forte pour l'ancien directeur général de l'entreprise dont les juges estiment qu'il savait ce qu'il faisait. En Algérie, il était l'une des incarnations du système, ce système que les Algériens contestent depuis des semaines dans les rues. Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, a démissionné à son tour, 2 semaines après le président Bouteflika. Sa démission intervient au premier jour d'une révision exceptionnelle des listes électorales. En prévision de la présidentielle du 4 juillet, les Algériens non encore inscrits ont 1 semaine pour le faire, ce que beaucoup ne feront pas, décidés à boycotter l'élection avec le soutien de nombreux maires et magistrats. Thibaut Cavaillès.
Étudiant à Tizi Ouzou, Missipsa n'a jamais demandé sa carte d'électeur. Les scrutins sont toujours faussés, estime-t-il. Aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika a démissionné, mais le système n'a pas changé, alors Missipsa non plus.
Avec ce même gouvernement, avec les mêmes visages, avec le même ministre de l'Intérieur qui avant organisait des fraudes, qui est maintenant devenu Premier ministre, je ne vois réellement pas comment cette élection du 4 juillet aurait une certaine légitimité. Alors, tout naturellement, je boycotterai les révisions de ces listes électorales.
Et beaucoup feront comme Missipsa. Pour ceux qui veulent s'inscrire ou mettre à jour leur carte, faudra-t-il encore que leur commune le permette? Une 40aine de maires a d'ores et déjà refusé d'organiser la révision, comme celui de Souketnine, 18 000 habitants à l'est d'Alger. Slimane Kermouz n'a pas tenu compte de la demande officielle envoyée par le préfet.
Ouais, il va m'ordonner comment? Il l'a ordonné déjà, il l'a instruit avec un écrit officiel. Mais je ne vais pas accepter, je vais refuser, carrément.
Vous avez reçu une lettre officielle?
Et je risque rien, dernier, même si je reste tout, et je peur de personne. Moi, en tant que maire, je m'exprime au nom de mes citoyens qui sont aussi dans ma commune, ne voulant un état de droit.
Un maire qui refuse également d'organiser l'élection présidentielle dans sa ville. Samedi, déjà plus d'une centaine de magistrats nécessaires à l'organisation d'un tel scrutin annonçaient qu'ils ne le superviseraient pas.
Thibaut Kerayès, et puis ce soir, l'armée ne tournera pas ses armes contre le peuple. C'est ce que vient d'assurer son chef d'état-major qui appelle les contestataires à la patience.
Merci beaucoup Yves Decamp pour le journal. On se retrouve demain. Yves, nous on reste ensemble pour Le Téléphone Sonne. Merci de passer la soirée avec nous. L'œil sur le ciel.
La météo avec Gauthier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Et Sébastien Léas, la douceur s'installe, c'est prévu demain en tout cas.
Oui, très forte hausse des températures demain. On va gagner localement 6 à 8 degrés, voire plus par rapport à cet après-midi. À Lyon par exemple, il fait à peine 14 degrés actuellement et on attend 22 degrés demain. À Paris, on va passer de 13 degrés aujourd'hui à 19 degrés demain après-midi. Prévoyez 17 degrés à Beauvais, Metz et Béziers. 20 degrés pour Granville, Lorient, Tours, Saint-Etienne et Aix-en-Provence. 21 degrés à Valence et à Albi. On ira jusqu'à 24 degrés à Périgueux et Issoire. Et 26 degrés, ce sera pour Biarritz.
Et beaucoup de soleil aussi.
Oui, un soleil généreux sur la majeure partie du pays. Sur les régions de l'ouest, le soleil sera un peu voilé. Entre la Normandie, l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté et sur le Bas-Languedoc et le Midi-Toulousain, le début de journée sera plus mitigé à cause de nuages bas et de bancs de brouillard, mais les éclaircies seront plus belles l'après-midi. Le ciel sera plus nébuleux entre l'Alsace et le nord de la Seine puisqu'on retrouvera les résidus de la perturbation d'aujourd'hui. Quelques pluies seront même possibles en matinée, mais l'après-midi, les éclaircies vont s'élargir. Et puis sur le Nord-Pas-de-Calais, les nuages resteront tout de même prédominants demain après-midi.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.